Si Dieu existe réellement, pourquoi il y a autant de mal et de souffrance dans le monde? Vous avez sûrement déjà entendu cette question. Ça revient très souvent. Des amis vous ont peut-être posé cette question, des collègues de travail, des membres de la famille. Peut-être que vous vous êtes déjà même posé cette question-là. Est-ce que Dieu est réellement en contrôle? Puisqu'on dirait que les hommes font ce qu'ils veulent quand ils veulent. Mais Dieu déclare partout dans la Bible et de plusieurs manières qu'il est en contrôle, qu'il est souverain. Il règne pas seulement parce qu'il a un titre d'autorité, c'est pas seulement un titre officiel, il règne de manière active, il est en contrôle. Et ce n'est pas... ce thème-là revient très souvent. Certains pensent même qu'on en a fait le thème de l'Église ici. Mais ce n'est pas par choix nécessairement, c'est parce que Dieu en parle très souvent. Et on l'a vu régulièrement dans le livre de Genèse. Et Dieu, on dirait que dans le livre d'Exode, il veut vraiment taper sur le clou. « Je suis souverain. » Et il fixe la fondation de la foi pour le restant des Écritures, même jusque dans le Nouveau Testament. Il est en contrôle de ce qui se passe. Et dans le texte qu'on étudie dans l'histoire du peuple d'Israël, ils sont encore en captivité en Égypte. Et ça fait déjà 9 plaies que Dieu envoie contre les Égyptiens en leur disant que c'est pour qu'ils plient et finalement qu'ils laissent partir son peuple. Et à chaque fois, ils s'entêtent, représentés par le Pharaon, qui s'endurcit, qui ne veut pas les laisser partir. Mais Dieu n'a pas perdu contrôle, au contraire. Et par cette 10e plaie qu'il va annoncer, il montre justement qu'il est en parfait contrôle, qu'il est souverain. Et il veut le démontrer d'une manière éclatante. Lisons ensemble l'Exode, chapitre 11. Donc, Exode, le 2e livre dans votre Bible, 2e livre de l'Ancien Testament, le chapitre 11, Exode 11, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, « Je vais envoyer une dernière plaie au Pharaon et à l'Égypte. Après quoi, il vous laissera partir d'ici. » Quand enfin il vous laissera partir, il ira même jusqu'à vous chasser d'ici. Parle au peuple pour que chaque homme demande à son voisin et chaque femme à sa voisine des objets d'argent et des objets d'or. L'Éternel avait fait en sorte que le peuple obtienne la faveur des Égyptiens, au point que Moïse était très respecté dans le pays d'Égypte par les serviteurs du Pharaon et par le peuple. Moïse dit... Et là, on voit qu'il s'adresse au Pharaon. « Voici ce que l'Éternel, ce qu'a dit l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je m'avancerai dans l'intérieur de l'Égypte, et tous les premiers-nés vont mourir dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né du Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier-né de la servante qui travaille aux meules, et tous les premiers-nés même du bétail. Il y aura de grands cris dans tout le pays d'Égypte, tels qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais. » Mais chez les Israélites, pas même un chien n'aboiera, ni contre un homme, ni contre une bête, afin que vous reconnaissiez la différence que Dieu fait entre l'Égypte et Israël. Alors tous tes serviteurs viendront se prosterner devant moi, en disant, « Sors, toi et tout le peuple qui te suit. Après cela, je sortirai. » Moïse quitta le Pharaon dans une ardente colère. L'Éternel dit à Moïse, « Le Pharaon ne vous écoutera pas, afin que mes prodiges se multiplient dans le pays d'Égypte. » Moïse et Aaron firent tous ces prodiges devant le Pharaon. L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, qui ne laissa point partir les Israélites hors de son pays. On voit les deux derniers versets, les versets 9 et 10, sont comme un résumé. C'est comme une petite parenthèse que Moïse fait. C'est un résumé de tout ce qu'on a lu avant les 9 plaies précédentes, même ça inclut la 10e. On dit, l'Éternel a dit à Moïse, il avait averti d'avance, le Pharaon ne vous écoutera pas, afin que mes prodiges se multiplient dans le pays d'Égypte. Et Moïse et Aaron firent tous ces prodiges devant le Pharaon. L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon qui ne laissa point partir les Israélites hors de son pays. Donc tout est sous le contrôle de Dieu. On voit que Dieu est souverain et il le résume dans ces deux versets-là. Tout ce qui arrive aux Israélites est prévu. Si les Israélites demeurent prisonniers des Égyptiens pendant ce temps-là, que les Égyptiens ne les laissent pas partir, on ne sait pas combien de temps ça a duré, c'est prévu par Dieu, c'est voulu. La réaction du Pharaon est aussi prévue, déterminée par Dieu. Les prodiges sont tous prévus aussi. Ils arrivent dans l'ordre que Dieu l'a voulu. Ils ont une raison. Et ce que Moïse et Aaron ont fait devant le Pharaon, c'est Dieu qui l'a fait par eux. C'est Dieu qui était en contrôle pendant tout ce temps-là. Et par cette annonce de cette 10e plaie-là, on va l'étudier dans les prochaines semaines, mais même dans l'annonce de cette 10e plaie, on voit la souveraineté de Dieu sous plusieurs aspects. Il y en a d'autres aussi, mais on peut en voir sous quatre angles. Quatre angles où on peut regarder et étudier la souveraineté de Dieu. Premièrement, on voit que Dieu contrôle même la réaction des gens face à son peuple. Ça peut être une réaction négative comme une réaction positive. Ici, le premier exemple, c'est une réaction négative où on voit tout au long des displays, Dieu a fait en sorte que le pharaon soit fâché contre le peuple d'Israël, soit trop orgueilleux pour les laisser partir, ait une soif de puissance trop grande. Dieu a conduit toute chose pour que le pharaon refuse. Donc, sa réaction a été négative. Pourtant, il voyait que l'intention des Juifs, c'était de partir dans le désert, adorer Dieu, à la demande de leur Dieu. Donc, le pharaon s'opposait à ce que les Hébreux allent dans le désert, faire trois jours de marche pour adorer Dieu. Et c'est le genre de réaction que Dieu peut provoquer chez ceux qui sont face aux serviteurs de Dieu qui veulent obéir à leur Dieu. On a une foule d'exemples dans la Bible, et vous en avez sûrement expérimenté vous-même des situations comme cela. On pense à Daniel qui voulait prier son Dieu, qui avait l'habitude de le prier, et à qui on voulait interdire de prier l'Éternel. Il a même été jeté dans la fosse aux lions. On pense aux apôtres aussi, que plus tard, à l'époque du Nouveau Testament, qu'on voulait faire taire, empêcher d'évangéliser, et qui ont été mis en prison aussi. D'autres, comme Étienne, ont été mis à mort même, ont été lapidés. Pourtant, ils ne faisaient qu'obéir à Dieu. Mais à chaque fois, Dieu avait des objectifs plus loin, à long terme. Le fait qu'il provoque une opposition, ce n'est pas une fin en soi. Ça servait à un but, ça sert le plan de Dieu. Et son but est positif. Comme ici avec le peuple d'Israël prisonnier en Égypte. Le but, c'était de conduire tout cela jusqu'à une 10e plaie, où finalement Pharaon soit brisé dans son orgueil et qu'il laisse partir les Israélites. Et même qu'il ne fasse pas seulement que les autoriser à aller trois jours de marche dans le désert, mais qu'il les chasse pour qu'ils ne reviennent plus jamais, qu'il les chasse de manière définitive. On voit que c'était le plan de Dieu. Ce n'était pas seulement qu'ils aillent trois jours dans le désert pour prier. Dans son plan, Dieu voulait qu'ils sortent définitivement d'Égypte, que le pharaon dise « On ne veut plus rien savoir de vous, ne revenez plus ici », pour que finalement ils puissent aller dans la terre promise, en Canaan. C'était le but déclaré de Dieu, qu'ils se rendent dans la terre promise. Dieu peut provoquer aussi une réaction positive. On le voit dans la manière dont il a conduit les choses pour que les Israélites obtiennent faveur auprès des Égyptiens. Le peuple, tout à coup, alors qu'il méprisait les Hébreux, tout à coup, ils se sont mis à les tenir en haute estime. Et Moïse, même par-dessus les autres, il était, littéralement, c'est écrit qu'il était très grand dans le pays. Donc, il était très considéré, très respecté. On pourrait dire craint même. Parce que c'est par sa main que tous les prodiges arrivaient et toutes les souffrances causées au peuple égyptien. On voit plusieurs exemples aussi dans la Bible où des hommes de Dieu ont obtenu la faveur de gens qui ne sont pas des serviteurs de Dieu. Par exemple, on pense à Joseph qu'on a vu dans Genèse qui a obtenu la faveur de Potiphar. Plus tard, il a obtenu la faveur, les grâces du chef de prison. Plus tard, même du pharaon lui-même, qui l'a nommé au rang le plus élevé. Et tout cela, c'était pour conduire à sauver sa famille. On voit David, avant qu'il soit roi, qui a obtenu pour un temps la faveur de Saül. Il a obtenu la faveur du peuple aussi, même le peuple chantait ses louanges. C'est Dieu qui avait provoqué cela. On pense aussi aux premiers chrétiens de la première église à Jérusalem qui se réunissaient. Et tout le peuple les voyait à quel point ils s'aimaient, qu'ils partageaient tout entre eux. Et ils se sont attirés la faveur du peuple, pas nécessairement parce qu'ils le voulaient, mais c'est arrivé comme cela, Dieu l'a permis. On lit dans Actes 2, 46-47, « Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu. Et ils obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait à chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc, à chaque fois, obtenir la faveur n'était pas une fin en soi. Dieu permettait cela pour atteindre des objectifs précis, des objectifs qui s'intègrent dans son plan. On peut se réjouir lorsque des non-chrétiens nous aiment, des collègues de travail, ou lorsqu'on fait le bien, on peut parfois s'attirer même des faveurs. Les gens peuvent nous tenir en haute estime, mais ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas un but à rechercher d'être aimé par la population. Et parfois, ça peut même être un piège où on se félicite des choses qu'on a faites parce qu'on est aimé de la population, où on reçoit une lettre de félicitations du maire pour le bien qu'on fait à la communauté. Mais tout cela n'est pas une fin en soi. C'est un outil que Dieu utilise. Et si les Israélites ont aujourd'hui obtenu, dans ce récit, la faveur des Égyptiens, ce n'était pas simplement pour être aimés, les Égyptiens. Il y avait plusieurs raisons. Ici, la raison qui est déclarée, c'est que les Égyptiens acceptent la demande qui est invraisemblable de leur donner des objets d'argent et d'or. Allez voir votre voisin et demandez-lui, « Peux-tu me donner tes bijoux? » Qu'est-ce qu'il va dire, vous pensez? C'est invraisemblable, là. Mais Dieu demande à chaque Hébreu, chaque homme, chaque femme, d'aller voir son voisin, sa voisine, leur demander de leur donner des objets d'or et d'argent. Mais il fallait que Dieu ait d'abord préparé le terrain. Et Dieu a fait en sorte que les Égyptiens disent oui, ils veulent donner ces biens-là. Wow! Mais c'est vraiment Dieu qui a conduit tout cela. Et il n'a pas contrôlé comme des marionnettes les Égyptiens, mais il a conduit les événements pour que finalement les Hébreux trouvent faveur, trouvent grâce auprès des Égyptiens. Cela aussi, on voit que ce n'était pas un but final. L'objectif de Dieu, ce n'était pas seulement d'enrichir les Israélites. On va se rendre compte plus tard dans le récit que tout cet argent-là, cet or, va servir à construire le tabernacle, qui était très somptueux, et tous les ustensiles, les outils, les instruments pour le culte que Dieu va établir. Et ça, en plein milieu du désert. Mais Dieu conduit tout cela pour rendre cela possible. Malheureusement aussi, on va voir que les Juifs vont s'en servir pour faire un veau d'or et trahir leur propre Dieu, mais même ça, Dieu va s'en servir d'un but formateur. Et cette faveur étonnante-là des Égyptiens, ça avait été annoncé par Dieu à Moïse, avant même la première plaie. Dieu avait dit au chapitre 3, « J'étendrai ma main, je frapperai l'Égypte par toutes sortes de miracles que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera partir. Je ferai en sorte que ce peuple obtienne même la faveur des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez pas les mains vides. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui séjourne dans sa maison des objets d'argent, des objets d'or et même des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous enlèverez cela aux Égyptiens. » Vous enlèverez cela aux Égyptiens. On voit qu'il y avait un autre objectif que Dieu voulait atteindre par cela, c'était de dépouiller les Égyptiens. C'est comme un juste retour des choses. Et si Dieu l'a spécifié cela, qu'il voulait faire, lui-même voulait faire grâce à son peuple, il voulait prendre ce qui était aux Égyptiens, leur enlever et le donner à son peuple, c'était pour révéler une chose très importante par rapport à son rapport avec l'humanité, la manière dont il est souverain, c'est qu'il considère son peuple d'une manière différente de tout le reste de l'humanité. Il a une destinée différente pour son peuple, particulière, différente du reste du monde. Ça peut nous paraître sévère de la part de Dieu. On peut avoir un malaise qu'après que les Égyptiens aient été frappés 9 fois par des plaies, ils ont souffert, qu'en plus Dieu vienne enlever leurs biens. Mais on doit croire, comme Dieu le dit, que Dieu ne fait rien d'injuste. Alors que nous sommes infidèles, Dieu est toujours fidèle, il ne peut pas se renier lui-même. Tout ce que Dieu fait est juste. Et il nous a permis aussi, dans sa grâce, il nous a donné des éléments pour qu'on comprenne aussi que c'était un juste retour des choses. Les Égyptiens qui paraissent être des victimes à ce moment-là ont été méchants envers le peuple d'Israël pendant des décennies. Des méchancetés très graves où ils leur ont imposé de lourds travaux, de l'esclavage. Ou même, ils sont arrivés à un point où ils leur exigeaient des travaux qui étaient même irréalistes. qui conduisait des Hébreux à mourir à la tâche. Ils ont même provoqué ils ont ordonné et exécuté un génocide de tous les bébés nouveau-nés mâles. Ils les ont fait souffrir pendant des années et des années. Et Dieu, en faisant cela, il intervient. Il dit là, c'est assez. Et il prend les biens qui appartenaient aux Égyptiens, mais qu'ils avaient sûrement acquis, en grande partie par le travail pénible de leurs esclaves. Mais Dieu leur enlève. De toute façon, Dieu est le Créateur. Il dispose des biens comme il le veut. Il dit dans Matthieu 20, « Ne m'est-il pas permis de faire de mes biens ce que je veux? » Dieu est le Créateur. Mais il montre par cette plaie-là à quel point il a un plan qui est distinct pour son peuple. Il fait une différence et il veut que son peuple le voie. Il dit « Afin que vous reconnaissiez la différence que Dieu fait entre l'Égypte et Israël. » Relisons à partir du verset 4. Moïse dit « Voici ce qu'a dit l'Éternel. Vers le milieu de la nuit, je m'avancerai dans l'intérieur de l'Égypte. Tous les premiers-nés vont mourir dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né du Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui travaille aux meules, et tous les premiers-nés même du bétail. Il y aura de grands cris dans tout le pays d'Égypte, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais. Mais chez les Israélites, pas même un chien n'aboiera, ni contre un homme, ni contre une bête, afin que vous reconnaissiez la différence que Dieu fait entre l'Égypte et Israël. » Donc, ce qui attend les Égyptiens, c'est un châtiment terrible. Des douleurs comme ils n'ont jamais connues. Et le contraste est frappant. Alors qu'il va y avoir des cris partout dans le pays d'Égypte, mais chez les Israélites, ils vont être dans la paix. Pas même un chien va aboyer. Il n'y aura pas de trouble. Et Dieu provoque ce grand contraste-là justement pour montrer que le destin, la destinée qu'il a décrétée est différente. Dieu a choisi Israël pour son peuple et il n'a pas choisi les Égyptiens. Il n'a pas choisi le reste du monde. Dieu a fait un choix dans sa souveraineté. Pourquoi? On ne connaît pas toutes les raisons de Dieu. Il est souverain, il est le Créateur, il est en droit de faire les choix qu'il veut. Mais nous savons qu'il est toujours juste. Est-ce que c'est parce que les Israélites étaient meilleurs? Est-ce que c'est parce que les Israélites étaient un peuple droit, un peuple juste? Qu'ils avaient réussi par leur fidélité à respecter les commandements de Dieu, la conscience du bien et du mal que Dieu avait mis dans leur cœur? Est-ce que c'est pour ça que Dieu a choisi ce peuple-là, parce qu'il était un peuple intègre et droit? Non. Au contraire, même Dieu dit plus tard dans Deutéronome, « Reconnais donc que ce n'est pas à cause de ta justice que l'Éternel, ton Dieu, te donne ce bon pays pour que tu prennes possession. Car tu es un peuple à la nuque raide, au cou roide, à la tête dure, comme on dirait en québécois. Tu es un peuple rebelle. Donc, ce n'est pas à cause de tes mérites si je t'ai choisi. » Il dit aussi dans Deutéronome 7, « Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous ou qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. » Non, ce n'est pas à cause du prestige, à cause des grandes réussites technologiques ou militaires qu'ils auraient pu accomplir. Dieu les a choisis alors qu'ils étaient le moindre des peuples. Et Dieu les a pris et les a désignés de manière officielle alors qu'ils étaient des esclaves. Mais on comprend que Dieu ne les a pas choisis à ce moment-là, il les avait choisis longtemps avant. Il avait planifié tout cela. Et quand on recule dans le récit d'Exode, et même qu'on remonte dans la Genèse, on se rend compte que c'est en réponse aux promesses qu'il avait faites à Abraham, et même aux promesses à Noé. On remonte même à Adam et à ses fils, à la déclaration qu'il a faite au serpent et à la femme. Donc, ça remonte même aux origines du monde. C'est la même chose pour les membres de son peuple aujourd'hui. Nous qui sommes assemblés, qui pouvons dire « Je suis membre du peuple de Dieu », personne d'entre nous ne peut dire sincèrement qu'il est membre du peuple de Dieu à cause de son propre mérite. Qui peut dire qu'il n'a jamais péché, qu'il est plus intègre qu'un autre? On peut parfois essayer de s'en convaincre, mais Dieu nous a pris alors qu'on était le moindre de tous les peuples. Il nous a choisis Il nous a élus. Et de la même manière qu'il avait choisi le peuple d'Israël, il nous a choisis même avant la fondation du monde. Paul le dit dans Éphésiens 1, versets 4 à 8, « En lui, donc en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, avant de créer la terre, le ciel et tout ce qui s'y trouve, pour que nous soyons saints, donc mis à part, sanctifiés, sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés, donc à faire partie de sa famille, selon le dessein bienveillant de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Son sang nous rend pur. Son sang a fait en sorte que Dieu nous a rachetés. Le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Il n'était pas obligé de se révéler, de révéler sa souveraineté, mais il nous l'a révélé dans sa grâce. Il nous a révélé le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis, c'est-à-dire réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux, ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été mis à part, prédestinés, selon le plan de celui qui opère tout, selon la décision de sa volonté. Il va fort, là. Le Paul rajoute des synonymes, des noms, des verbes pour qu'on comprenne vraiment. Se prédestiner selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Si Dieu avait voulu nous dire qu'il nous a choisis à l'avance, qu'il avait choisi ceux qui sont sauvés, il n'aurait pas pu le dire d'une manière plus claire que cela. En fait, c'est exactement ça qu'il dit. Il nous a choisis. Et ça ne dépend pas de nous. C'est une pure grâce. On doit se souvenir que tous les hommes ont péché contre Dieu, le Créateur. Que tous les hommes, normalement, Dieu est en droit de les détruire. Ce que nous méritons, c'est d'être détruits. C'est la mort éternelle. C'est l'enfer. Dans notre conception, Dieu devrait, s'il est vraiment bon, il devrait choisir tout le monde. Mais ce n'est pas ce que Dieu dit. Dieu a choisi un peuple, et là on voit qu'il en a choisi de toutes les nations pour former son peuple, pour l'épargner de ce qui normalement nous reviendrait. Et il l'a fait en offrant son propre fils, son premier-né. Il a donné ce qui était de plus précieux pour lui. Son fils est mort pour que nous n'ayons pas à mourir. Mais on peut quand même rester avec un goût amer. Ce n'est pas une injustice si Dieu ne choisit pas tous les hommes. Et Paul, dans l'Épître aux Romains, après avoir justement exposé la doctrine de la prédestination, que nous avons été élus, c'est par grâce. Personne ne peut se vanter d'avoir été choisi par Dieu. Ce n'est pas à cause des œuvres qu'il aurait pu accomplir. Ce n'est pas parce qu'il a réussi à accomplir la loi. C'est vraiment un acte de grâce du Dieu souverain. Après avoir exposé tout cela, Paul justement soulève la question. Est-ce que Dieu est injuste en faisant cela? Et il prend justement l'exemple du Pharaon qu'on est en train d'étudier. Il dit dans Romains 9, à partir du verset 14, « Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? » Certes, non. Car il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. » Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. En fait, Dieu dit, « Je ne suis pas injuste envers ceux que je n'ai pas choisis, parce qu'ils, c'est pas comme s'ils avaient vécu, ils avaient vécu une vie parfaite, que je leur refuse de faire partie de mon peuple. » Ils n'ont pas le droit de faire partie de mon peuple puisqu'ils ont péché contre moi. Mais moi, je décide de faire miséricorde à certains, comme à l'époque, il avait décidé de faire miséricorde au peuple d'Israël. Ça ne dépend pas des hommes puisque tout ce que nous méritons, c'est d'être condamnés. L'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité tout exprès pour montrer en toi ma puissance et pour que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. » Ça nous amène à une deuxième question. Si c'est Dieu qui endurcit le cœur du Pharaon, mais pourquoi Dieu le blâmerait? Est-ce que le Pharaon, c'était vraiment de sa faute s'il a été rebelle? C'est une question légitime. Si Dieu endurcit le cœur de certains et adoucit le cœur de d'autres pour qu'ils croient à sa parole et soient sauvés, est-ce qu'on pourrait dire, bien, dans ce cas-là, pourquoi Dieu blâme les hommes? Ça ne dépend pas de nous, c'est Dieu qui décide. Mais Paul amène justement cette deuxième question à la suite, verset 19. « Tu me diras donc, qu'a-t-il encore à blâmer? Qui résiste à sa volonté? » La réponse est toi plutôt. Qui es-tu pour discuter avec Dieu? Le vase qui a été modelé, Dieu est comparé à un potier qui modèle un vase. Le vase modelé dira-t-il au modeleur, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi? » Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même pâte un vase destiné à l'honneur et un vase destiné au mépris? Si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire à des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Si Dieu a voulu le faire comme cela, qui on est, nous, de simples vases, pour dire au potier qu'il n'avait pas le droit de le faire? Donc, avec des vases destinés à la perdition, Dieu montre sa colère, mais aussi sa toute-puissance. Et avec des vases destinés au salut, il montre sa grâce et aussi sa gloire parce qu'il destine ses vases à être participants de sa gloire. Donc, avons-nous un réel choix? La question demeure. Si Dieu décide à l'avance, il décrète, s'il endurcit qui il veut, est-ce que nous avons un réel choix? Eh bien, oui. Dieu met en place tous les événements dans nos vies, toutes nos expériences, nos interactions les uns avec les autres. Tout concorde de manière à ce que ce soit la volonté de Dieu qui s'accomplisse exactement comme il le veut. Mais ce que nous décidons de faire, nous le décidons par notre propre volonté. Et même si on n'arrive pas à saisir tout cela, parce que notre esprit est limité, la Bible le dit. La Bible dit autant les deux. La Bible dit que Dieu a tout décrété et de multiples façons, ça se retrouve dans tous les récits de l'Ancien Testament. Dieu le déclare qu'il conduit tout, mais la Bible nous montre aussi que nous sommes toujours responsables de nos décisions. Nous subissons les conséquences de nos choix. Dieu place devant nous l'Évangile et nous invite à y croire. Si nous rejetons son Fils, nous sommes coupables de l'avoir rejeté. Jésus, alors qu'il savait que des gens avaient des oreilles pour entendre et que d'autres n'en avaient pas, invitait quand même tous à se repentir. Et ceux qui refusaient étaient responsables et coupables. On lit dans ce même épître, dans Romains, « Par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère, de la révélation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. » Personne ne pourra plaider, « Oui, mais c'est Dieu qui m'a fait un vase comme cela. » Nous sommes et nous demeurons responsables. Dans Jacques 1, 13, 14, nous lisons que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, « C'est Dieu qui me tente. » Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente personne. Chacun est tenté par sa propre convoitise qui l'attire et le séduit. Si le Pharaon a refusé, alors que nous lisons que c'est Dieu qui a endurci son cœur, mais c'est parce qu'il avait, le Pharaon, il s'était endurci, nous le voyons. Il avait développé avec les années, il s'est enfoncé dans le mal au point où c'était impossible pour lui d'accepter que le peuple d'Israël parte. Mais tout cela est arrivé parce que Dieu l'a voulu. Dieu, en fait, il nous informe, si le Pharaon est endurci comme cela, c'est parce que je l'avais prévu et c'était mon plan. Mais le Pharaon demeure responsable et coupable d'avoir fait cela, d'avoir choisi de faire le mal. Il y a foule d'exemples dans la Bible, et les exemples les plus frappants, à mon avis, se situent autour du récit de la mort de Jésus. Dieu condamne les hommes qui ont crucifié son Fils. Mais il déclare en même temps que c'est eux qui les ont suscités, que lui a suscité ces hommes qui ont crucifié son Fils. On a l'exemple de Judas qui a trahi Jésus. Jésus, avant de Dans son dernier discours, dans Jean 17, 12, il dit « Lorsque j'étais avec eux, je gardais en ton nom ceux que tu m'as donnés, et je les ai préservés. Aucun d'eux ne s'est perdu, en parlant de ses disciples. Sauf le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. » On sait qu'il parle de Judas. Judas était destiné à trahir Jésus. C'était le plan de Dieu. Dans Luc 22, 21-20, on lit « Cependant, voici, celui qui me livre est à cette table avec moi. » Jésus le connaissait. Il avait même choisi comme apôtre. Jésus savait qu'il allait être trahi par lui. Le Fils de l'homme s'en va des suites de cette trahison, selon ce qui est déterminé. Mais malheur à cet homme-là par qui il est livré. Judas était quand même responsable, et même quand Judas l'a compris, il s'est suicidé. Les Juifs qui ont fait mourir Jésus par la main des Romains sont coupables. Pourtant, tout cela est arrivé selon le dessein de Dieu. On lit dans Actes 2, « Israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme approuvé de Dieu devant vous par les miracles, les prodiges, les signes que Dieu a faits par lui, au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein, pas le dessein, là, mais le dessein, le plan, arrêté, en définitif, de Dieu, selon la préscience de Dieu. Vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. Vous l'avez fait mourir. Et ils sont coupables. On lit dans Actes 2, après que Pierre leur a exposé ça, il dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché. Ils n'ont pas dit, mais là, c'est Dieu qui nous a manipulés. Ce n'est pas de notre faute. C'est Dieu qui nous a tentés à faire le mal. Non, ils ont eu le cœur touché. Et ils ont dit, que ferons-nous? Et Pierre leur dit, repentez-vous. Pierre ne leur dit pas, c'était le plan de Dieu, c'est pas de votre faute. Non, non, ils étaient coupables. Et il leur dit, repentez-vous. Et donc, Dieu demeure en contrôle de tout, mais il n'est jamais lui-même à blâmer pour le mal qui se fait. On pourrait à tort conclure aussi que Dieu est en dehors de l'histoire, que puisqu'il l'a tout écrite, il regarde comme si on regarde un film. C'est pas comme ça que la Bible présente Dieu non plus. Il demeure sensible à ce qui se passe. On le voit même dans ce texte par la colère de Moïse. Moïse déclare ce qui va arriver et il est le représentant de Dieu lorsqu'il dit ça au Pharaon. Il sait très bien ce qui va arriver. Pourtant, il est dans une colère terrible en voyant à quel point le Pharaon est obstiné, injuste, menteur, orgueilleux et surtout rebelle à son Dieu. Et Moïse est dans une colère ardente et il sort de là en colère. Mais pourquoi il est ému comme cela? Mais je pense que pourquoi il a pris la peine de l'écrire dans ce texte-là, c'est parce que lui-même, Moïse, devant Pharaon, représente Dieu. Et ce n'était pas par orgueil si Moïse était en colère. On lit dans Nombre 12, « Moïse était un homme très humble, plus qu'aucun être humain sur la face de la terre. » C'est ce qu'on pourrait dire, c'était une sainte colère, justifiée. Et il représentait dans son attitude la colère de Dieu. Dieu avait nommé Moïse comme son représentant. Même, il dit dans Exode 7, « L'Éternel dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon. » La manière dont tu vas parler au Pharaon, dont tu vas agir, c'est comme si c'était moi, personne qui va être devant Pharaon. Je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron sera comme ton prophète. Donc, en se mettant en colère, c'était une démonstration au Pharaon que l'Éternel Dieu était en colère contre lui. Il était en colère face au mal, à la rébellion. Donc, le texte nous propose que c'est Dieu qui éprouvait ce sentiment-là, sentiment de colère face au Pharaon, qui s'entêtait contre lui et contre son peuple. C'est la même chose lorsqu'on lit les sentiments que Jésus éprouvait lorsqu'il était sur la terre. C'était Dieu sur terre. Lorsque Jésus était ému de compassion, lorsqu'il avait de l'amour, lorsqu'il était indigné, lorsqu'il était triste, lorsqu'il était en colère et qu'il chassait les vendeurs du temple, c'était les sentiments que Dieu éprouvait. Dieu vit cette compassion-là. Il n'est pas comme un chef d'entreprise qui planifie ses affaires et qui met à pied certains de ses employés ou qui en a d'autres qui donne des promotions basées simplement sur des chiffres, sur des résultats comptables. Dieu n'a pas seulement décrété l'histoire, il la vit, il est dedans. Il réagit, il interagit avec sa créature. Il vit cette histoire même en même temps que nous. C'est pour ça qu'on dit même que Dieu démontre sa patience. La Bible nous montre que Dieu peut être content, triste. Il peut approuver un serviteur, agréer ce qu'il fait, comme il peut être indigné. Avoir de la pitié, comme être en colère. Et il avait averti le Pharaon dans Exode 4. On lisait, « Ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse partir mon fils. » Pas seulement laisse partir mon peuple, laisse partir mon fils premier-né. Laisse-le partir, je t'avertis, pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, alors moi, je ferai périr ton fils, ton premier-né. C'est vraiment une interaction. Dieu le menace. Si tu t'en prends à mon fils, mon premier-né, je vais non seulement te démontrer ma puissance, mais je vais faire une juste rétribution, une vengeance justifiée. Dieu punit ceux qui ont osé toucher à son peuple, et cette dixième plaie-là est l'accomplissement de sa menace. Vous avez osé continuer à vous en prendre à mon peuple, je vais vous punir, comme je l'avais déclaré. Il punit ceux qui ont osé s'en prendre à son premier-né. Et c'est fort cette expression-là, son héritier, celui que Dieu met en autorité sur sa maison, celui qu'il considère comme son représentant, comme lui-même, celui qu'il aime. Et alors que Moïse et tout Israël est humilié, déshonoré, Dieu fait en sorte qu'il soit honoré, même par ses propres ennemis. Et on lit au verset 8, « Alors tous tes serviteurs viendront se prosterner devant moi. » Et c'est Moïse qui parle. Donc, les serviteurs, les Égyptiens vont venir se présenter donc, devant les Israélites pour demander « Sortez. » Et ils vont aller s'agenouiller devant ceux qu'ils considéraient peu de temps avant comme leurs esclaves. C'est Dieu qui rend cet honneur-là. Ça fait penser à ce que Dieu promet aux chrétiens dans Apocalypse 3, verset 9, « Voici, je te livrerai des gens de la synagogue de Satan qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas, car ils mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. » Et ça nous amène au quatrième et dernier point de la souveraineté de Dieu qu'on peut voir dans ce passage-là, c'est que Dieu ne veut pas simplement qu'on comprenne qu'il sait tout, qu'il voit tout à la manière d'un voyant ou d'un devin. Mais il veut vraiment qu'on saisisse qu'il contrôle tout. C'est important pour lui. Et il le répète, et ici, vraiment, il l'expose. « Je suis souverain. » Dieu veut qu'on comprenne cela. Pourquoi? Premièrement, pour que nous l'adorions. C'est tout à sa gloire. Et on va voir la réaction du peuple d'Israël lorsqu'ils seront finalement libérés. Ils vont même composer, et Moïse va composer un chant, et ils vont adorer Dieu en voyant tout son contrôle. C'est aussi pourquoi Dieu tient à ce qu'on sache qu'il est au contrôle, c'est pour nous encourager. Il le dit de multiples façons, nous redonner du courage. Alors que nous sommes dans la souffrance, on peut avoir tendance à baisser les bras, à être découragé, à ne plus vouloir continuer, à dire « je suis au bout du rouleau ». Mais quand on se rappelle que Dieu est en contrôle, ça nous redonne du courage pour persévérer et être prêt à lui obéir. La victoire que Dieu annonce, elle est assurée, elle est certaine. La vie éternelle qu'il nous promet, ce n'est pas seulement des probabilités, c'est une chose assurée, au point où ce que Dieu dit même, vous l'avez maintenant même, vous qui croyez, vous avez la vie éternelle. Tellement c'est assuré. Donc c'est extrêmement réconfortant, surtout quand on est dans des périodes où on rencontre de l'opposition, où on dirait que tous les événements sont contre nous. Mais de savoir que tout cela accomplit le plan de Dieu, c'est réconfortant. Dans Romains 8, 28, on lit, « Nous savons du reste que toutes choses, les mauvaises choses qui nous atteignent comme les bonnes choses, les réactions positives des non-chrétiens comme les réactions négatives ou positives, tout cela coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. » de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et Dieu nous dit justement cela dans le contexte où il nous dit que nous sommes prédestinés, appelés, justifiés. Nous sommes sanctifiés. Dieu prend soin de nous et nous rend saints pour finalement nous glorifier, donner la gloire, l'honneur que nous perdons sur cette terre à cause de toutes les souffrances que nous vivons. Le déshonneur que nous subissons, Dieu va compenser ça d'une manière infiniment plus grande. Il va nous faire participer à sa gloire pour l'éternité sur cette nouvelle terre. Prendre conscience de la souveraineté de Dieu aussi a pour effet de nous abaisser dans notre orgueil. C'est pas pour rien qu'il fallait que ce soit l'homme le plus humble sur la terre, Moïse, qui soit son représentant. Si Dieu est au contrôle de tout, plus on le réalise, ça nous abaisse dans notre orgueil. Elle est où la fierté humaine de prendre ses propres décisions, d'être celui qui peut se féliciter de ses bons coups? Elle est où la joie de gagner son salaire? Quand on comprend que c'est Dieu qui donne tout, mais la joie est encore là, mais elle ne se trouve plus en nous. Elle se trouve dans notre Dieu qui nous donne tout. Ça nous rend humbles. Mais cette humilité-là fait en sorte qu'on est élevé en Dieu, en Christ. Et Paul nous le rappelle dans 1 Corinthiens 4. Qui est-ce qui te distingue? Qui es-tu? Oui, tu es dans le peuple de Dieu. Est-ce que tu peux t'en vanter? Qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? C'est Dieu qui t'a tout donné. C'est Dieu qui t'a choisi. Même si tu fais des progrès dans la sainteté, tu as eu la victoire sur des péchés, c'est Dieu qui le fait. C'est aussi très motivant de savoir que Dieu a un plan bon et qu'il l'accomplit. C'est motivant pour le servir. Et lorsque le peuple d'Israël a vu cela, à quel point Dieu intervenait, et ils ont respecté à la lettre ce que Dieu leur a demandé pour quitter l'Égypte. Ils ont demandé les objets, ils les ont reçus, et on va voir comment ils vont respecter à la lettre les consignes pour la Pâque. Donc, ils ont été motivés à le servir. C'est motivant de voir que Dieu est au contrôle. On ne travaille pas en vain. Et même lorsque Paul était découragé, lorsqu'il faisait des efforts pour évangéliser, comment Dieu l'encourage? C'est en lui disant, « J'ai un peuple nombreux dans cette ville. Je suis souverain. Tu ne travailles pas pour rien. » Et Paul a redoublé d'efforts. C'est aussi pour que nous soyons reconnaissants, que nous lui rendions grâce, parce qu'on l'adore, mais aussi on le loue pour toutes ses œuvres, les œuvres grandes et merveilleuses, comme on l'a chanté. Et on le sert aussi par reconnaissance, parce que nous l'aimons. Et plus nous méditons sur la souveraineté de Dieu, plus notre amour pour lui va grandir. Et ça va avoir un effet aussi sur notre amour envers nos frères et sœurs. C'est directement relié. Et on va essayer de mieux en mieux, de ne pas déplaire à notre Dieu. On ne veut pas l'attrister. Sachant même qu'il est un Dieu qui a des sentiments, qui vit avec nous, qui vit ce que l'on vit, on ne veut pas l'attrister. Et lorsque, dans Éphésiens, Paul fait plusieurs recommandations pour ne pas pécher contre nos frères, il dit « Ne mentez pas, ne volez pas, travaillez, prévoyez au... » Pourvoyez aux besoins de vos frères et sœurs. Lorsque vous êtes en colère, même, ne gardez pas de l'amertume en vous. Soyez honnêtes. N'ayez aucune parole malsaine envers vos frères et sœurs. Mais au contraire, édifiez-vous. Rejetez toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie. Que toute méchanceté soit ôtée au milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Faites-vous grâce, pardonnez-vous. Pourquoi? Parce qu'il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Sachant que Dieu nous a scellés, qu'il a fait de nous son peuple et qu'on ne peut même pas se sauver, on est dans sa bergerie, sachant que par son Saint-Esprit qu'il a mis en nous, c'est sûr que nous avons la vie éternelle et que nous ne la perdrons pas, sachant cela, n'attristons pas Dieu, n'attristons pas le Saint-Esprit. Donc, plus on médite sur la souveraineté de Dieu, ça aura un effet direct sur notre sainteté, notre désir d'être saint. Ce ne sera plus par obligation, par légalisme, mais ça va être vraiment pour faire plaisir à Dieu, ne pas lui déplaire. Donc, rappelons-nous régulièrement que Dieu est souverain. Même lorsque le monde s'oppose à nous, Souvenons-nous, même lorsque des gens en position d'autorité nous menacent, que Dieu ne perd pas le contrôle. Proverbe 21 dit, « Le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout comme il veut. » Proverbe 16:4, « L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. » Dieu est en contrôle, ne tombons pas dans le piège de vouloir le blâmer pour ce qui arrive. Rappelons-nous qu'il a un plan spécial et soyons au contraire très reconnaissants qu'il nous a choisis, alors que ça ne dépend pas de nos mérites. Il nous a donné la vie éternelle. Nous avons besoin de nous souvenir de cela, surtout quand ça va mal, que nous souffrons. Même si on ne comprend pas tout, pourquoi Dieu permet telle ou telle action mauvaise, tel événement mauvais. Faisons-lui confiance qu'il n'est jamais injuste. Il n'est jamais insensible non plus. Lorsque nous souffrons, il la voit, il est compatissant et il nous délivre. Et un jour, il nous délivrera de toutes les sources possibles même de souffrance. Donc, faisons tout en notre pouvoir pour ne pas lui déplaire, ne pas l'attrister. Louons-le pour sa souveraineté parce qu'il en est digne. Amen.